Est-ce que les termes écologie et spiritualité, ça résonne en vous? Peut-être vous êtes un éco-spirituel qui s'ignore. C'est mon cas, par exemple. Je suis un éco-spirituel, je ne le savais pas. En tout cas, c'est sûr que pour moi, ces deux mots sont très, très liés. Aujourd'hui, je reçois Julia Itel, qui est une doctorante en sciences religieuses. Et avec elle, on va beaucoup parler de éco-spiritualité, puisque c'est son sujet de doctorat. C'est quoi l'éco-spiritualité? Quel est le lien entre l'écologie et la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? Comment la spiritualité a évolué sur les 50, 70 dernières années? Où est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il y a besoin de faire un petit examen de conscience? Est-ce que l'éco-spiritualité, ça peut aller dans le bon sens? C'est quoi le rapport par rapport aux religions? Vous allez voir, c'est une conversation qui est hyper intéressante, sans jugement, c'est important de le dire, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Julia, comment tu te sens ce matin?
Bonjour Grégory, je me sens très bien. Merci de m'avoir invité.
Je suis ravi. On va parler de spiritualité, on va parler d'éco-spiritualité plus précisément. Peut-être que la première question qui peut sembler un peu basique et en même temps qui me semble essentielle parce que tu en parles dans ton papier, c'est quoi la définition de la spiritualité? Et c'est quoi les définitions modernes surtout de la spiritualité?
Alors, bonne question. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Donc, je suis doctorante en sciences des religions et je m'intéresse à la spiritualité contemporaine depuis mon master, donc depuis 2016. Et puis, c'est vrai que dans mes lectures scientifiques, je ne trouvais pas de définition consensuelle sur ce qu'est la spiritualité. Alors, je pourrais pas te donner une définition exacte, je pourrais te donner des critères d'inclusion, qui sont assez communs parmi les chercheurs qui étudient ces phénomènes contemporains. Donc, en général, la spiritualité, c'est quelque chose c'est un système de religiosité qui apparaît massivement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la contre-culture et qui s'est depuis répandu dans la culture. Il y a beaucoup de personnes qui se considèrent spirituelles mais pas religieuses. Donc, c'est un système de religiosité qui se construit contre la religion institutionnelle et particulièrement la religion chrétienne et qui forme une sorte de nébuleuse. Donc, c'est pas un système qui est prédéfini, qui a un leader charismatique établi, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus flou, qui est constitué en réseau et qui valorise en fait le culte de la subjectivité, qui donne le primat à l'expérience personnelle, qui cherche une quête un peu de vérité et de soi dans l'expérience, dans la multiplicité aussi des traditions, des religions, des philosophies. Et ça emprunte à beaucoup de domaines. Ça peut être la psychologie, ça peut être la philo, ça peut être la science même, le domaine un peu plus écologique. Donc ça, on en parlera sans doute après. Mmh. Et qui, ça permet à l'individu de se constituer un système de sens qui lui est propre et dans lequel il peut expérimenter une quête éventuellement de transcendance ou de connexion à un plus grand que soi. Voilà.
Et justement, quand tu dis qu'il lui est propre, c'est intéressant parce que ce qu'on reproche beaucoup aux religions, c'est qu'elles sont dogmatiques, en général. Donc là, ça veut dire, et je ne suis pas sûr de la réponse, c'est pour ça que je te la pose, la question que je vais te la poser en tout cas. Est-ce que la spiritualité, cette spiritualité moderne finalement, elle est exempte de dogmes? Ou est-ce qu'il y a des codes quand même, ou des choses à suivre?
Alors ça, c'est assez implicite, mais oui, il y a quand même des dogmes, il y a quand même des règles, entre guillemets. Je pourrais pas forcément toutes les citer, mais par exemple, c'est assez commun de rencontrer cette idée que déjà, c'est à l'individu que revient la responsabilité de sa vie, de ses choix. Donc, on occulte complètement le côté collectif, social. Il y a un peu derrière cette idée, la loi de l'attraction, par exemple, où on va façonner nos idées, façonnent notre réalité. Donc, ça, c'est systématique. Et une critique, d'ailleurs, qui a été adressée à la spiritualité, comme je disais, c'est que ça a mis beaucoup, beaucoup trop de responsabilités sur l'individu. Et voilà, donc, il y a aussi ce côté-là qui émerge. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ça, c'est vraiment l'essentiel, je dirais, et ce qui résume un petit peu la spiritualité contemporaine. Après, effectivement, il y en a plein d'autres. Marc Bonomelli, justement, qui a écrit là, le livre récemment sur les nouvelles routes du soi, sur la néo-spiritualité, il travaille actuellement sur un nouveau livre sur les dogmes actuels de la spiritualité. Ça pourrait être intéressant de m'interroger aussi.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est lui qui nous a mis en contact par ailleurs.
Ouais.
Tu parles donc d'éco-spiritualité. C'est quoi l'éco-spiritualité ? Quel est le lien entre l'écologie et la spiritualité ?
Alors, donc l'éco-spiritualité, moi, je l'aborde dans ma thèse de doctorat que je suis en train de faire. Alors, pour moi, déjà, quand je m'étais intéressée à la spiritualité contemporaine lors de mon master, ma recherche de master, j'avais pu identifier trois catégories de la spiritualité. Parce que, je veux dire, comme on l'a abordé au début de cet enregistrement, la spiritualité, c'est très nébuleux, c'est très vaste. Et puis, souvent, en fait, dans la littérature scientifique, les chercheurs, ils ont un peu tendance à le résumer au New Age. Mais c'est pas que le New Age, en fait. Il y a beaucoup plus de subtilité que ça.
Et donc, faut que tu nous expliques ce que c'est que le New Age aussi.
Ouais.
Pardon.
Alors, le New Age, ce serait... Alors, ça dépend aussi des acceptions. Hein. On aime bien se compliquer peut-être un petit peu la vie en sciences sociales. Mais le New Age, tu as à la fois ce mouvement donc spirituel qui parle de l'avènement d'une nouvelle ère, l'ère du Verseau, donc du nouvel âge, où les hommes, les êtres humains vont devenir beaucoup plus fraternels. Voilà, il y a ce mouvement qui vient plus paisible. Les guerres seront révolues, etc. Et puis
c'est
d'un autre côté, d'un point de vue, c'est John Lennon, et d'un point de vue plus sociologique, c'est un courant qui émerge à partir des années 70, 80 même, et qui s'amplifie dans les années 90, et qui rassemble tout ce mouvement des nouvelles spiritualités, des nouveaux mouvements spirituels, et souvent, voilà, ça s'organise en réseau, c'est autour d'ateliers un peu de développement personnel, avec des croyances, un renouvellement de l'ésotérisme. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est à la fois ce courant idéologique de l'avènement d'une nouvelle ère, et puis d'un autre côté, il y a ce courant plus sociologique. Et aujourd'hui, il me semble qu'on n'est plus exactement dans une New Age. Donc, ce que j'avais montré dans mon travail de recherche de master, c'est qu'il y a plusieurs typologies de la spiritualité et qui peuvent être réparties en termes de phases un peu historiques. Donc, on a effectivement ce premier mouvement des années 70 à 90 qu'on pourrait qualifier de New Age, qu'une sociologue française a qualifié de nébuleuse mystique ésotérique. Je trouve ça un peu plus juste. Et qui rassemble...
C'est Eva
Illouz
ou...
Non, Françoise Champion. Ouais, Françoise Champion. Et qui rassemble donc tous ces mouvements un peu autour de la méditation transcendantale, de la quête d'expériences avec des entités comme des anges, de faire de la canalisation, de channeling. Voilà, on est dans un registre de recherche, de connexion avec l'au-delà, dans une quête un peu mystique, transcendante. À partir des années 2000, je dirais, on entre dans un mouvement qui est un peu plus laïcisé. C'est un peu les enfants, justement, des baby-boomers et qui en ont un petit peu marre des tendances magiques, magico-religieuses de leurs parents, si je peux résumer comme ça, et qui vont aller vers des courants plus philo, psycho. Donc ça, c'est une autre sociologue française, Nadia Garnossi, qui appelait ça la nébuleuse psycho-philo-spirituelle. Et on est dans quelque chose qui se rapproche de la psychologie positive. Donc là, Eva Illouz, effectivement, elle a davantage étudié ces mouvements-là. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus laïque, sur la méditation telle qu'elle est représentée par Fabrice Midal. On est voilà sur des tendances un peu plus à travailler sur nos émotions, sur nos relations avec les autres. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus immanent, entre guillemets. Hein. Et puis là, la référence, souvent, les gens, ils vont, pour légitimer un peu leur spiritualité, ils vont parler, ils vont avoir recours aux neurosciences, par exemple. La neuroscience explique ces phénomènes. Et puis ensuite, j'en viens à l'éco-spiritualité. Il y a ce mouvement qui émerge à partir des années 2010, voire 2015, hein, avec tous les mouvements de prise de conscience de la catastrophe ou de l'urgence climatique. Il y a eu toutes ces marches pour le climat, etc. Et donc, on voit apparaître un mouvement éco-spirituel d'intention, de connexion à la nature, de réenchantement un petit peu de notre relation à la nature. Et c'est ça que j'étudie actuellement en Europe francophone, pour voir un peu quelles sont les formes éco-spirituelles qui prennent place aujourd'hui. Donc pour moi, si je pouvais résumer ce qu'est l'éco-spiritualité, parce que à nouveau, c'est un phénomène qui est nébuleux, qui est vaste, si je dois rassembler un peu tous ces mouvements qui peuvent être un peu parfois singuliers, ce sont toutes des approches spirituelles, sensibles, symboliques de connexion ou de reconnexion à la nature.
Quand je t'entends parler, je me dis, en fait, avec la modernité, il y a eu toute la technique, évidemment, et donc cet imaginaire qu'on pouvait tout expliquer en découpant tout en morceaux, ce qui a un peu supprimé la magie du monde. Et tu parlais de la magie sur la partie New Age, en tout cas, ou post-New Age, développement personnel, on va dire. Et en fait, j'en parlais avec Michael Dandrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire, qui me disait, en fait, la problématique, c'est que quand tu essayes de tout expliquer, ou que tu as cette illusion que tu peux tout expliquer, tu enlèves la magie du monde. Mais en enlevant la magie, le problème, c'est que tu enlèves l'espérance. Est-ce que tu n'as pas la sensation que, justement, ce retour de la spiritualité, et du coup, on va le connecter, évidemment, avec l'écologie, il est aussi dans un moment où on a besoin d'espérer qu'on va réussir à s'en sortir d'une manière ou d'une autre, face aux défis qui sont face à nous, qui sont assez majeurs quand même, qui sont assez uniques, d'ailleurs, pour l'espèce humaine.
Oui, alors là, il y aurait deux éléments de réponse. Le premier, c'est que aujourd'hui, tu vois, j'ai rencontré beaucoup de guides de bains de forêt, des sylvothérapeutes, qui amènent des individus, des groupes en forêt, faire des immersions de plusieurs heures en forêt pour se reconnecter à leur sens, et puis dans une approche d'abord de bien-être et de santé physique, psychologique, émotionnelle, et puis de l'autre côté, qui peut les amener à se reconnecter à la nature, à la considérer de manière plus respectueuse, etc. Et puis, ils utilisent beaucoup, en fait, même de manière systématique, les études scientifiques qui ont été menées sur l'immersion en forêt, en nature. Et donc, ça permet, tu vois, l'explication rationnelle du monde, finalement, qui passe par la science. Bah là, ils la réutilisent pour réenchanter et pour légitimer un peu l'expérience des thérapies forestières. Donc, on n'est pas dans une scission. Ouais. On n'est pas dans une scission entre science et religiosité. Ouais.
Parce qu'effectivement, il me semble que quand tu te mets sous un arbre, ça a été prouvé scientifiquement que ça réduit le stress de manière assez générale.
Donc, oui, exactement. Il y a plusieurs choses. C'est que ça libère les arbres, notamment par leurs feuilles, libère des molécules qui permettent. Enfin, il y a tout un tas d'effets physiologiques qui ont été prouvés. Donc, ça active, par exemple, le système parasympathétique, donc qui produit un état de relaxation. Il y a aussi les ions négatifs, il y a tout un ensemble de choses qui produit un état de relaxation, de détente. Ça permet de diminuer les ruminations, donc ça permet de lutter contre l'anxiété, contre le stress chronique, etc. Donc, tout ça, ça a été prouvé par des études scientifiques qui viennent initialement du Japon. D'ailleurs, le bain de forêt, le shirinyoku, vient du Japon. Aussi, en psychologie environnementale, il y a des études qui sont menées. À Lausanne, actuellement, il y a une étude au CHUV qui est en train aussi d'être menée pour voir un peu les effets physiologiques. Donc, il y a plusieurs choses. Et ces personnes-là, qui ne sont pas forcément scientifiques, vont se réapproprier ou s'approprier ces études pour légitimer ou pour, en tout cas, donner une explication des bénéfices qu'il y a à aller en forêt. Et c'est pas totalement scindé, donc ces deux visions du monde. Ce qui est assez intéressant dans l'écologie.
C'est même hyper connecté. En fait, c'est intéressant de voir. Enfin, moi, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, tu sais, tu le sais pas d'ailleurs, mais j'ai écrit un bouquin sur l'écologie et où je dis que finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on change de spiritualité de société, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on change notre rapport au vivant d'une certaine manière. Pas dans une logique ultra de développement personnel qui est effectivement hyper individualiste aussi, et c'est le problème, même si il me semble, mais tu sais ça mieux que moi, que dans l'histoire du self-care, dans les années 60, c'était comme une réponse à des corps qui étaient extrêmement stressés, des âmes qui étaient stressées. Donc, en fait, le capitalisme avait broyé les gens déjà dans les années 60. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivé le self-care à l'origine, c'est-à-dire une réponse individuel à un système qui devenait un petit peu trop complexe, qui s'est ensuite transformé en un business. C'est-à-dire que le capitalisme a dit « Ah, mais t'as un problème avec le système, attends, t'inquiète pas, on va te demander une solution. » Mais c'est vrai qu'on est, on est tombé. Et aujourd'hui, je pense que c'est en train de retourner un petit peu. Moi, ce que je ressens, c'est que les gens sont en train un peu de délaisser cette logique de développement personnel pour se dire, en fait, il y a quand même des problèmes systémiques qui ne nous appartiennent pas, qui sont liés à la société. Tu parlais de neurosciences. Il y a Samara Karaki, que j'ai reçue sur le podcast, qui est une neuroscientifique et qui n'arrête pas d'expliquer que, en fait, non, ce n'est pas individuel et que c'est complètement collectif. Et que, en fait, quand on fait du développement personnel, on se perd parce que finalement... il faut pas perdre de vue, et c'est sympa de faire des développements personnels, et c'est pas la question, et moi j'ai beaucoup pratiqué aussi, mais il faut pas perdre de vue qu'il y a des problèmes systémiques qui sont de la société, qui sont pas liés à l'individu. Mais là où je voulais en venir, c'était de dire finalement, est-ce que tu sens pas que il y a un petit renversement en ce moment sur ce côté systémique et sociétal, plutôt que d'aller en renforcer encore ce côté développement personnel? Je sais pas ce que tu vois toi dans tes études.
Oui, alors, c'est ce que je voulais dire aussi en deuxième élément de réponse, donc ça lie bien les deux. Alors, parmi ma population de personnes que j'ai pu interroger dans ma thèse, qui font partie plus ou moins de l'éco-spiritualité, ce que j'observe quand même, c'est que y a assez peu de militants. Donc, militants écologistes, environnementalistes. Ou alors, il y en a quelques-unes, des personnes qui étaient auparavant dans des associations militantes et qui ont ensuite arrêté forcément de faire partie de ces mouvements parce que c'était trop violent, c'était trop dans une énergie, comme il disait, un peu de lutte, un peu trop masculine, etc. Et qui ensuite ont changé leur manière de se mobiliser pour le vivant dans des approches beaucoup plus douces. Et c'est ce que après on voit dans l'éco-spiritualité. Donc ça peut être par exemple, c'est ça, d'amener des groupes dans les forêts. Ça peut être, il y en a une par exemple qui, alors elle fait pas du chamanisme seul, c'est pas exactement ça, mais elle est herboriste et puis elle fait des retraites et puis elle amène. On est davantage dans un registre de la guérison. Alors c'est un public aussi qui est très éduqué, qui lit beaucoup d'ouvrages en sciences sociales, donc qui adopte aussi un certain vocabulaire qu'on retrouve, voilà, le terme nature est remplacé par celui de vivant parce qu'il est plus inclusif, qu'il est non-dualiste, etc. Ça vient plutôt de des études ethnologiques et anthropologiques. Après, de là à dire, donc il y a quand même une conscience un peu plus systémique, de là à dire qu'il y a un vrai renversement et qu'on change du domaine du développement personnel individualiste vers quelque chose de plus collectif, je ne sais pas trop. Après, ce que j'avais dit à une journaliste auparavant, qu'est-ce que la politique ? Est-ce que c'est de s'engager de manière traditionnelle dans des partis, dans des mouvements associatifs, politisés, etc. ? Ou est-ce qu'on peut, il n'y a pas aussi une politique un peu plus du proche, de voilà, on aide aussi les personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans l'éco-spiritualité qui ont créé des réseaux d'aide psychologique pour les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, par exemple. Donc, on n'est pas exactement dans le registre politique, mais on peut pas dire, il y a à la fois pas énormément de politisation et de collectivisation. D'un autre côté, on n'est pas vers des individus qui sont complètement atomisés et non plus trop individualistes. Même si, quand même, le domaine du spirituel prédomine sur celui peut-être de l'engagement politique chez ces personnes.
C'est marrant parce que je tombe complètement dans les cases que tu décris, c'est vraiment drôle parce que j'ai pareil dans mon bouquin, je dis moi je suis engagé, je suis pas militant, parce qu'effectivement dans le militantisme j'envisage vraiment cet affrontement dans lequel je me retrouve pas, et donc je me considère comme une personne engagée. Et tu vois, la manière dont je décris Vlan, c'est de dire j'essaye d'aider les gens, enfin les personnes qui écoutent, à être un peu plus sereines dans un monde qui est complexe et qui, je sais pas s'il s'effondre, mais en tout cas il y a une partie de la civilisation ou un système qui lui va devoir s'effondrer d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est, ouais, il est antinomique avec le vivant. Et ouais, tu vois, j'ai utilisé le vivant plutôt que la nature, enfin...
Ouais. Donc, je rentre pas mal dans tes cas. Ah, j'aurais pu t'interroger, alors.
C'est ça.
Mais tu vois, ce qui est intéressant...
dans tes cases.
Ce qui est intéressant, c'est que contrairement... alors, il aurait fallu que je fasse une étude un peu contrôle groupe pour voir du côté des militants comment la représentation de la nature, la relation à la nature s'agence. D'un autre côté, chez les éco-spirituels, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont plus résilientes d'un point de vue émotionnel, qui sont plus sereines face à l'avenir et qui n'envisagent pas forcément, qui ont conscience qu'il peut y avoir un effondrement, mais qui ont confiance en la capacité de résilience, justement, de la nature, même de l'humanité. Donc, on est dans des discours, tu vois, dans une sphère écolo globale. On est dans des discours qui s'affrontent un petit peu. On a d'un côté, alors on pourrait dire peut-être qu'ils sont utopistes, peut-être que c'est irréaliste même leur manière de penser, etc. D'un autre côté, peut-être pour faire face à l'urgence, des comportements qui sont plus résilients émotionnellement, qui sont pas dans la peur constante et dans le risque d'un burn-out aussi, hein, ce qui fait aussi beaucoup peur aux militants, ben, ça peut être aussi un élément de réponse.
Le burn-out militant, c'est un vrai gros sujet. Est-ce que on a parlé un petit peu de développement personnel et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est en fait d'un mouvement qui était lié, enfin tu vois, à la Bhagavata, qui était le lien à soi pour aller vers du lien aux autres et du lien à la nature. On est passé dans un truc hyper capitaliste de lien vers soi et donc extrêmement égoïste. Est-ce que ce développement personnel, ou en tout cas la manière dont les gens le vivent aujourd'hui, il s'oppose pas justement avec le combat écologique, puisque par définition, quand tu es hyper centré, moi je vois des gens qui, sous prétexte de développement personnel ou de spiritualité, vont faire des retraites à Bali, vont faire je sais pas quoi en Inde, ou partent en Amérique latine, et en fait, ce faisant, en fait, ils font partie du problème, plus qu'ils trouvent des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre des développements personnels versus le combat qu'ils sont en train de mener par ailleurs?
Alors, je distinguerai quand même les spirituels, développement personnel, et puis les personnes que j'ai interrogées qui s'ancrent plus dans cette perspective éco-spirituelle. Pour les éco-spirituels, je dirais quand même que, alors oui, il y a un travail sur soi parce qu'ils font, ils sont ancrés dans cette, dans ce milieu holistique d'introspection, etc. D'un autre côté, ils cherchent activement, et c'est hyper important pour eux, c'est essentiel à leur vie, de développer une relation avec la nature. Donc, ils sont quand même, ils intègrent une altérité non humaine qui est globale, universelle presque, à leur vie. Ils le font donc de différentes manières, que ce soit des approches un peu plus sensibles, symboliques, spirituelles, ou alors il y en a aussi qui s'engagent un petit peu plus dans quelques associations, mais pas à ce point militante, tu vois, par exemple, qui vont créer du lien, etc. D'un autre côté, t'as tout à fait raison, il y a tout un courant, voilà, ce que Marc a appelé aussi les néo-spirituels qui ont surtout, qui se sont accrus là après le Covid, et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. J'aime pas forcément condamner en disant qu'ils sont égoïstes, égocentriques, et qu'ils réfléchissent pas vraiment aux conséquences de leurs actes. Parce que généralement quand même la spiritualité s'inscrit dans une quête de sens qui est assez cohérente pour eux, et puis voilà, c'est pas forcément quelque chose de non plus trop égoïste. D'un autre côté, c'est vrai que ta réflexion elle est justifiée, je veux dire aujourd'hui après est-ce que c'est l'écologie qui les anime, tu vois, je sais pas si c'est chez tous les spirituels la dimension écologique elle est présente. Donc dans ces cas-là, et puis il y a aussi une recherche d'exotisme, puisque la religion chrétienne ou les religions monothéistes n'apportent pas d'éléments de réponse, on va aller chercher ailleurs ce qu'on peut trouver, ce qu'on essaye de trouver. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. Ça date aussi de la période hippie, où on allait en Inde dans des ashrams ou à Katmandou. Donc c'est quelque chose qui se poursuit dans ce milieu-là. Mais voilà, c'est effectivement, on peut se poser la question du coût du billet d'avion ou de l'immersion chez d'autres cultures. C'est pour ça d'ailleurs que, notamment dans mon groupe d'études, il y a beaucoup de personnes qui font du chamanisme, mais ils font du chamanisme européen, donc celte, tu vois, parce que finalement la forme amérindienne c'était trop éloigné de leur culture, de leurs racines et de leur ancrage territorial, et qu'ils préfèrent aller voir ce qui se passait chez eux auparavant. mais on est toujours dans quelque chose d'autre que le christianisme.
Ouais. Mmh. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'animisme, ça rentre à l'intérieur de ça? Où est-ce que tu le positionnes? Est-ce que tu abordes, tu peux expliquer ce que c'est que l'animisme? Tout le monde n'est peut-être pas forcément très bien au courant. Et ensuite, comment ça s'inscrit à l'intérieur?
Oui, alors l'animisme, c'était, ça caractérisait, d'après les anthropologues, la religion un peu justement des peuples premiers, où ils pensaient que toute chose avait un esprit animé, donc une âme. Aujourd'hui, oui, moi je vois complètement chez les éco-spirituels, je dirais que c'est ce qui les rassemble tous. J'utilise par contre le concept de New Animism, donc de néo-animisme du sociologue Graham Harvey, qui est en Angleterre, et qui aujourd'hui tend à caractériser en fait ces personnes qui privilégient la relation avec le monde autre qu'humain. Le monde vivant autre qu'humain. Et c'est vraiment sur cette notion de relation, de créer une relation entre les humains et le non-humain. Et ça, je le retrouve systématiquement. Par exemple, un de mes répondants qui considère que les arbres sont des partenaires, qui aussi pouvait se considérer proche même dès l'enfance des Amérindiens, alors que quand il jouait aux cow-boys et aux Amérindiens, il était constamment du côté des Amérindiens. Et puis en fait, parce qu'il avait une vision très animiste du monde, de la forêt qui l'entourait, et il croyait vraiment, il interagissait avec les êtres naturels ou les arbres, etc. Et puis il avait une relation, je ne dis pas qu'il communiquait comme on communique entre nous humains, mais il y avait une sorte d'échange, d'interrelation, et c'est quelque chose que je retrouve systématiquement.
Et en fait, il y a vraiment cette croyance que cette sagesse, elle est, en fait, qu'on l'a perdue finalement et qu'elle est naturelle, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir à un système. En tout cas, je te parle de moi, ce que je pense. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais de se dire, bah, finalement, dans le capitalisme, on s'est un peu perdu dans l'ère du progrès qui finalement a des indicateurs de, j'allais dire des KPI, mais bon, c'est un mot qui est un petit peu complexe, mais disons des indicateurs de progrès qui sont très liés à la croissance financière. Et puis là, en fait, d'un autre côté, t'as des gens qui disent, ah, hop, en fait, ce qui compte, c'est la relation à la nature, ce qui compte, c'est la relation entre les humains. D'ailleurs, le bonheur, ça a été prouvé 1000 fois, mais enfin, c'est uniquement lié à la relation aux autres, etc., à la profondeur des liens, et que on est en train de, en fait, on se reconnecte à qui nous sommes. C'est peut-être même d'ailleurs un mouvement de balancier finalement, de se dire on est allé vraiment très très loin dans ce capitalisme hyper financier et en fait on revient à un truc un peu plus équilibré. T'as pas la sensation, enfin, ou comment tu vois ça toi?
Bah alors ça pour moi c'est un peu un des dogmes de la spiritualité, tu vois.
Ah, tu vois, on y revient au dogme.
Ouais. Concrètement, je ne sais pas trop. Alors tu vois, encore une fois, si je reviens à mon terrain, donc à l'éco-spiritualité, oui, ce sont des personnes qui travaillent sur elles, qui ont donc un lien à elles-mêmes qui se développe, un lien à la nature évident, sans doute un lien aux autres puisque ils amènent éventuellement des groupes, oui, ils font du bien aux personnes. D'un autre côté, est-ce que vraiment on est en train de créer une nouvelle société où le lien social il est au cœur de nos interactions? Je veux dire, tu vois, dans la spiritualité, voilà, ce credo un petit peu, ben, il joue mais pour quelques heures au sein d'un atelier. Puis ensuite, l'atelier, le groupe, le cercle se dissout et les personnes ne se revoient plus. Alors le lien social, je veux dire, comment il perdure, comment il se crée, comment il reste dans la longueur, je ne sais pas.
J'ai même vu pire, moi je suis allé dans des sortes de conférences où il y avait des gens qui étaient assez fortunés et donc ils parlaient comme ça, enfin plus ou moins d'éco-spiritualité quand même. Mais en fait, dès qu'il y avait le moindre problème, je me souviens d'une soirée où tu vois, il était tard et il fallait prendre un bus, etc. Et là, ils étaient, enfin, c'était de l'animosité pour le coup, c'est pas l'animisme. C'est-à-dire que c'est rien à faire des autres. L'important, c'est que moi, je rentre dans le bus et que je rentre pour pouvoir dormir, quoi. Tu vois, ils étaient revenus à ce truc hyper égoïste, finalement. Donc, ils écoutaient des trucs très, tu vois, spirituels, de l'amour de l'autre, etc. Et puis, finalement, dans la réalité de l'expérience, on les voyait pas vraiment là, quoi. Enfin, tu vois, dès qu'ils étaient un peu dans une très légère, on parle de rentrer pour dormir, hein, on n'est pas en train de survivre, mais on voit bien ce qui les motive quand même derrière, là derrière.
Oui, complètement. Et puis, alors, moi-même, j'ai pu participer à des événements spirituels, pas forcément éco-spirituels, mais spirituels, dans le sud de la France d'où je viens. Et puis, ce sont des personnes quand même qui forment une espèce de petite communauté. Donc, le temps du séjour, et puis sans doute, ils se voient aussi en dehors pour le noyau. Mmh. Mais pour toutes les personnes, mmh, un peu comme moi, qui visitent et qui viennent... Ben, je sais pas, en termes de lien social. Alors, il y a un moment donné, peut-être pour certaines personnes, il y a un apaisement de trouver d'autres gens qui nous ressemblent et qui pensent un peu comme nous, etc. Et puis ensuite, ça va leur faire du bien. Mais sur la durée, je sais pas. Mmh, et j'ai l'impression, même, tu vois, un peu les réseaux sociaux, si on peut étendre un peu la réflexion avec ces idées de followers, de communauté, etc. Alors oui, mais le lien, jusqu'à quel point, en fait, le lien, il peut vraiment s'ancrer solidement dans quelque chose qui est assez virtuel et qui est aussi, il n'est pas vraiment à sens unique, mais je veux dire, il y a une personne qui donne, et puis du contenu, par exemple, etc. Et puis ensuite, comment ça se joue, le lien là-dedans, je ne sais pas.
Complètement, c'est intéressant. Comment tu lis, toi? Moi, je vois, mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être juste moi dans ma petite bulle. J'ai l'impression qu'il y a un gros mouvement de retour, enfin, justement, vers la nature, vers les forêts. Il y a eu la nuit des forêts au mois de juin, donc, qui vient juste de passer. On est là au mois de juillet. Comment tu lis ça? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si tu le lis, et comment tu le lis, ce retour aux forêts? Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment ce truc, un gros mouvement yoga / bouddhisme / Inde. Et puis maintenant, on est plus, tu vois, dans Fantastic Fungies, donc le documentaire sur Netflix sur les champignons. Il y a ce retour, effectivement, des psychédéliques, qui était déjà là dans le New Age, hein, clairement. Il y a ce retour vers les forêts, vers des choses simples, la nature, etc., etc. Est-ce que déjà tu le lis, et comment tu le lis?
Alors moi, je le lis dans ma perspective sociologique de chercheuse sur la spiritualité contemporaine. Pour moi, les mouvements ne s'excluent pas, hein. Tu vois, les trois mouvements que je t'ai présentés tout à l'heure, pour moi, ils existent toujours et ils cohabitent. Donc il y a autant... oui, effectivement, il y a eu toute une mode du yoga qui peut-être s'atténue un tout petit peu, et encore, j'ai quelques doutes. Voilà. Et puis en même temps, ce phénomène éco-spirituel qui émerge, en tout cas d'intérêt pour la nature un peu réenchantée à travers ses études. Justement, tu vois, le succès du livre là, de Peter Volleben, je ne sais pas si je prononce bien, qui montre les interactions entre les arbres dans la forêt. Il y a eu aussi un documentaire sur Arte qui montrait ça. Donc, il y a pas mal, il y a quand même un marché littéraire qui fonctionne bien sur ces sujets. Donc, ça reflète aussi peut-être un intérêt effectivement du public pour ces questions-là. J'imagine que c'est toujours en lien forcément avec les préoccupations écologiques, et qu'on s'intéresse un peu plus à notre territoire ou à notre environnement naturel, et qu'on cherche à le comprendre. Au même titre qu'on a essayé peut-être de comprendre la conscience d'un point de vue plus psychologique, neuroscientifique, etc. Et ben là, on essaye aussi de comprendre de... C'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu vois, ce discours, je trouve, de scission entre la science et la religion ou la spiritualité, il fonctionne pas vraiment. Parce que la science, la spiritualité va toujours chercher dans la science une légitimation, et puis la science vient un peu apporter des éclairages sur des intuitions spirituelles que les peuples depuis toujours avaient. C'est ce que Raphaël Yogier, le sociologue, il avait montré dans son ouvrage « Souci de soi, conscience du monde », à travers une triangulation en fait entre l'hypernature, donc la nature plus que naturelle, ce qu'on voit aujourd'hui, tu vois, la nature, elle n'est pas juste une terre sur laquelle on vit, non, il y a des interactions, il y a des échanges, il y a de la communication, on peut dialoguer avec les animaux, tout ce que tu veux. La tradition qui est plus que traditionnelle, donc l'hypertradition, c'est cette espèce aussi, ce dogme, cette croyance que la spiritualité, c'est le message authentique que les religions ensuite ont un peu galvaudé. Et puis ensuite, il y a la science plus que scientifique qui vient justement découvrir d'un point de vue empirique ces intuitions spirituelles que les personnes les sages avaient dans les temps anciens. Donc, je pense qu'on est dans cette espèce de décor hyper naturel où on veut réenchanter finalement notre environnement, notre monde, notre planète, et puis on est en plein dedans. Et ça participe et donc de créer de la relation avec lui.
Et c'est vrai que tu as raison, il y a une sorte de combat, j'ai l'impression, entre les scientifiques, ou en tout cas des gens qui vont se dire très scientifiques, s'appuyer sur des faits, et puis une forme de spiritualité qui elle-même s'appuie sur des faits scientifiques ou essaye de se légitimer par des faits scientifiques. Et moi, je vois ça. En fait, je vois plusieurs choses. Il y a des personnes qui sont allées beaucoup trop loin dans le développement personnel qui, du coup, le critiquent de manière assez véhémente. Je vois des scientifiques qui... le critique également, en particulier j'avais reçu quelqu'un qui parlait de parce qu'on, dans la spiritualité on parle beaucoup de comment ça s'appelle, du coup j'ai plus le mot en tête, bon, c'est pas très grave, mais en tout cas il y a cette critique du développement personnel par des scientifiques, et en même temps t'as aussi des scientifiques qui sont très spirituels. On l'a beaucoup vu, en tout cas en particulier dans les mathématiciens. C'était quelqu'un qui parlait de quantique et qui disait attendez, me reconnectez pas à la spiritualité avec le quantique, ça n'a rien à voir. Et pourtant il y a quand même beaucoup de gens dans la spiritualité qui connectent avec le quantique. Je sais pas si tu vois ça.
Oui, et alors surtout chez les personnes qui sont dans la première nébuleuse, la nébuleuse mystique ésotérique, la physique quantique, elle est citée à toutes les sauces, et c'est vrai que on peut comprendre les critiques de la spiritualité, parce qu'apparemment, ça n'a rien à voir avec la physique quantique telle qu'elle est vraiment. Donc, il faut voir aussi quelles sont les sources un peu de vulgarisation. Qu'est-ce qu'elles vont lire ces personnes de la physique quantique, tu vois. Elles vont peut-être aussi prendre un peu ce qui les arrange, qu'elles en comprennent. C'est très édulcoré, j'imagine, par rapport aux théories quantiques qui sont extrêmement complexes. Et elles sont pas forcément formées pour. Mais c'est vrai que, effectivement, chez les grands mathématiciens ou les personnes qui s'intéressent à l'espace, il y a une forme parfois de mysticisme et de spiritualité. Puisque on est face au mystère aussi. D'un autre côté, tu vois, je trouve que... Alors, moi, ma posture en tant que chercheuse en sciences sociales, donc en socio-anthropologie, c'est de ni condamner ni forcément favoriser un mouvement. Je trouve qu'il faut rester dans une posture qui est juste, de description, d'observation, et puis sans condamner, voilà, sans adhérer forcément non plus. Je trouve ça plus intelligent. D'un autre côté, dans la société, il faut qu'il y ait des dialogues, il faut qu'il y ait des débats. Donc s'il y a des critiques des deux bords, c'est très bien, parce qu'il y a aussi des angles morts ou des points à critiquer, il faut les mettre en avant. Ça, je trouve que c'est assez sain. En fait, qu'il y ait des échanges, tout en gardant peut-être une espèce d'ouverture à l'autre et à ce qui est différent de ce qu'on pense.
Je t'ai vu sourire d'ailleurs quand je t'ai dit qu'il y avait des gens qui avaient été trop loin dans le développement personnel et qui maintenant le critiquaient de manière véhémente. Pourquoi ça t'a fait sourire ?
Parce que je pensais peut-être à une personne en particulier qui fait aussi des podcasts.
Effectivement, et qui vit aussi à Lisbonne d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Mais effectivement, mais ce podcast est hyper intéressant par ailleurs.
Exactement, et je trouve que ce qu'elle raconte, c'est très sain. Je veux dire, ce qu'elle met en avant, ce sur quoi elle travaille, c'est très sain, parce que il y a des mouvements qui sont effectivement sectaires, qui abusent d'autres personnes, et il faut qu'il y ait un travail d'introspection. Tu vois, voilà, dans le développement personnel, on parle beaucoup d'introspection, de travail sur soi, de travail sur notre ombre, ou je ne sais pas quoi. D'un point de vue social et collectif, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des travaux d'introspection sur les mouvements auquel on appartient. Et ce qui est un peu regrettable aujourd'hui, je trouve que, si je peux me permettre, le mouvement écologiste a du mal à faire sa propre introspection. Et on est dans un combat qui est beaucoup trop idéologique et beaucoup trop émotionnel, et ça manque parfois un petit peu aussi de réflexivité et puis d'introspection.
Je pense que c'était un peu je vais faire un truc un peu intellectuel, mais je vais faire une référence intellectuelle, mais c'était un petit peu la critique de Bruno Latour, le philosophe, sur l'écologie politique, où il a dit vous avez rien compris, en fait. Qui lui-même était très engagé, pour le coup, et qui a, juste avant son décès, il a vraiment beaucoup critiqué l'écologie politique.
Ouais. Et d'ailleurs, si des personnes, des auditeurs sont intéressés, moi j'invite à lire le très bon livre de Philippe Pelletier qui s'appelle le puritanisme vert. Et je trouve, tu vois, on parlait des dogmes de la spiritualité, il y a autant de dogmes dans l'écologie, dans le mouvement écologique et dans l'écologie politique qu'il serait bien, d'un point de vue intellectuel, éthique, etc., d'avoir aussi en tête, parce que on est imprégné de dogmes, d'idées, de croyances. Et je trouve ça assez honnête de les prendre en compte et puis de travailler ensuite à partir de ça.
Alors, une question que je ne t'ai pas posée, mais qui me semble assez évidente. Est-ce que tu penses que l'éco-spiritualité peut aider dans le mouvement justement écologiste?
Alors, écologiste, donc, d'un point de vue politique. Alors, je ne sais pas à quel point ce serait faisable, parce que, en tout cas en France, dans le monde anglo-saxon, c'est complètement différent. Il y a une intrication qui se fait beaucoup plus naturellement entre la politique et la religion. En tout cas, en France, moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie perméabilité entre les deux. Ce que je te disais, j'ai vu très peu de militants parmi mes interrogés. J'en ai rencontré 95. Donc, pour du qualitatif, c'est quand même pas mal. C'est pas représentatif de la population, mais ça donne quand même un aperçu. De l'autre, j'ai pas l'impression que des militants écolos soient très spirituels, ou en tout cas se revendiquent spirituels. On dirait que... Alors, est-ce que c'est un héritage néo-marxiste du point de vue des militants qui refusent le côté religieux parce que c'est une aliénation, etc. Est-ce que c'est aussi du point de vue spirituel un refus de l'institution, de l'autorité, qu'un groupe nous dicte quoi faire, nous individus, tu vois? Je sais pas du coup entre les deux comment on peut se rejoindre. D'un autre côté, je pense que ce travail que les éco-spirituels éventuellement font, et notamment ceux qui sont dans le côté un peu psychothérapeutique, qui travaillent sur l'éco-anxiété, sur l'anxiété de manière générale, ça peut... et puis dans des approches qui sont plus douces de manière générale et qui tissent vraiment du lien avec le vivant de manière très concrète et parfois de manière très simple. On n'a pas besoin forcément d'aller faire un rituel de remerciement Toltec, du chamanisme Toltec pour ça, tu vois, ça peut très bien être juste de prendre 2 heures dans sa semaine et d'aller marcher en forêt et puis de se laisser un peu observer ce qui se passe autour de nous, et parfois ça suffit juste. Je sais pas si d'un point de vue des militants, en tout cas chez les jeunes aussi actuellement, il y a peut-être une vraie relation qui se crée avec leur environnement. Est-ce que c'est d'un point de vue est-ce que c'est très intellectuel? Est-ce que c'est très combatif? Donc, il est où aussi le lien? Tu vois, je trouve que c'est intéressant. Je dis pas que l'un ou l'autre a raison ou tort, mais en tout cas, je pense que l'éco-spiritualité peut nourrir effectivement les écologistes dans ce qu'elle leur apporte peut-être un petit peu de calme, un petit peu de sérénité, en leur montrant qu'ils ne sont pas non plus déconnectés de ce lien à la nature qu'ils défendent.
En fait, tu parlais tout à l'heure des militants qui sont... Tu disais que c'est un mouvement très... je ne sais plus quel est le terme que tu as utilisé, très viril ou très masculin. Et
alors, c'est pas moi qui l'ai utilisé, hein, c'est mes répondants qui en ont fait partie. Ouais.
Ah, d'accord, pardon. Ouais. Et en fait, y a cette idée aussi qui est défendue à travers le féminisme, hein, que de manière archétypale en tout cas, dans le féminin, t'as justement tout ce que tu décris, c'est-à-dire ce lien avec soi, la connexion aux autres, etc., etc. Est-ce que, alors bien sûr c'est archétypal, hein, et je vais certainement pas dire il y a du féminin, il y a du masculin, parce qu'après bon, on parle plutôt d'yin et de yang, c'est plus juste parce que du coup ça ne genre pas. mais est-ce qu'il n'y a pas cette logique de développer ce calme intérieur pour plutôt que de effectivement être dans un combat très, très viril, enfin en tout cas ce que décrivent les personnes que tu as interrogées?
C'est vrai que sans être psychologue, bien que j'ai un diplôme en psychologie, mais je ne suis pas psychologue, les personnes que j'ai interrogées, je les qualifierais de hautement sensibles. Donc ils ont un rapport déjà au monde, avant même de s'intéresser à l'écologie, à la nature, tout ça, ils ont quand même un rapport au monde qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus introspectif. Donc, je sais que dans les courants spirituels ou du féminin sacré, on pourrait dire qu'ils ont une part de féminin qui peut être bien développée par rapport au masculin, dans les archétypes et dans l'essentialisation, effectivement, des valeurs. Donc, Oui, je sais pas. Après, je sais pas si on peut parler ensuite de polarité masculine-féminine. En tout cas, ce sont des personnes qui sont assez sensibles et donc qui voilà, comme je te disais, qui développent un rapport au monde qui est sensible et qui est plus doux, peut-être. Ouais.
Et du coup, est-ce que d'abord tu vois ça chez les hommes? Parce qu'en fait, dans ton panel de mémoire, t'as autant d'hommes que de femmes.
Non.
Donc, ça serait des hommes.
Non. J'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Non.
Ah. Donc, dans l'éco-spiritualité, t'as beaucoup plus de femmes que d'hommes, tu dirais?
Oui. Parce que c'est caractéristique du mouvement du milieu spirituel. De manière générale, il y a 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes. Ouais.
D'accord. Je pensais que c'était
éco. Non.
D'accord.
Non.
D'accord.
Non.
Et est-ce que tu vois un lien, du coup, entre les mouvements féministes et les mouvements éco-spirituels?
Alors, effectivement, j'ai quelques personnes, et donc des femmes, qui font partie du mouvement plutôt du féminin sacré. Même si elles n'aiment pas forcément le terme, mais en tout cas, effectivement, il y a une connivence quand même avec ces mouvements-là. Et donc, c'est un féminin, un néo-féminisme, entre guillemets, qui se rapporte beaucoup plus au corps et à la reconnexion aux cycles, que ce soit les cycles féminins qui sont mis en correspondance avec les cycles de la nature, donc les cycles saisonniers, les cycles de la lune. Et pour certaines, j'ai interrogé Marianne Grasselli notamment, qui est assez connue dans le milieu spirituel et notamment en Suisse. Voilà, il y a une vraie recherche de connecter les femmes à leur identité de femme, à leur corps de femme. Et pour elle, elle n'exclut pas du tout les hommes. Elle dit qu'ils ont un autre rôle à jouer sur le plan de la nature, de l'écologie spirituelle, etc. Mais pour les femmes, ce sont elles, les pourvoyeuses de vie, ce sont les plus à même d'amener ce renouveau un petit peu de pensée, cette reconnexion à la nature. C'est par elles que le mouvement passe. D'ailleurs, Marianne, elle se dit assez proche de l'écoféminisme. Sans être militante, encore une fois, sans être à placarder peut-être des affiches dans les rues, etc. Mais elle se sent, sa sensibilité est proche de celle-ci. Ouais.
Parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi ce mouvement d'écoféminisme. Donc en fait, on l'a pas décrit là, tu le mentionnes, mais qui est de dire, en fait, on compare la terre avec la femme, qui donne naissance, qui est violée, etc., etc. Enfin, par les hommes, de manière générale. Ouais. Et donc l'écoféminisme, c'est vraiment, enfin, c'est assez proche, je trouve. Moi, j'ai l'impression que c'est proche de l'éco-spiritualité. Enfin, déjà, il y a l'écologie au centre, bien sûr, c'est éco dans tous les cas. Enfin, écologie, en tout cas, de l'éco. Parce que l'écologie, c'est encore une autre histoire. J'ai l'impression qu'il y a des croisements, en fait, entre les deux mouvements.
Oui, complètement. Alors, d'un point de vue théorique, tu vois, l'éco-spiritualité, elle se construit dans une perspective socio-historique de plusieurs mouvements, le mouvement spirituel, développement personnel, et puis le mouvement d'écologie, mais pas que de l'écologie politique, du mouvement écologique, de manière générale, avec l'écologie profonde de Arne Naess, et l'écoféminisme aussi, d'un point de vue théorique, aussi en fait partie. Moi, ce que je constate actuellement, donc c'était un peu un des objectifs de ma thèse, c'était de cartographier ce que c'est l'éco-spiritualité. Donc, comme je disais, c'est une nébuleuse, au même titre que les autres catégories. Donc, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les mouvements, les courants qui appartiennent à l'éco-spiritualité? Il peut y avoir l'écoféminisme, mais dans sa partie, justement, féminin sacré, plus spirituel. Donc, ça en fait partie, au même titre que toutes les écothérapies, l'éco-psychologie, le néo-chamanisme ou néo-paganisme. Et puis d'autres mouvements peut-être plus minoritaires, de notamment les cueilleurs, les herboristes, etc., au rapport aux plantes. Mais ça fait partie, c'est un des courants que j'ai pu identifier, oui.
Et ça fait, quand tu dis éco-herboriste, ça fait penser aux sorcières aussi, tu vois, les guérisseuses, qui est aussi un gros mouvement qui du coup connecte aux femmes, etc., etc. Tu vois, t'as Odile Chabriac, entre autres.
Oui.
Ouais. Qui défend beaucoup le bouquin hyper connu sur les sorcières, Mona Chollet, qui défend beaucoup cette logique qui s'entraliait.
Ouais, ça fait partie des discours, surtout chez les femmes, mais. Ouais.
Qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi la. En fait, quand tu travailles sur ta thèse, c'est quoi l'information? Alors, c'est un travail de recherche, mais pour toi, c'est quoi l'information que les gens devraient... qui est essentielle que les gens comprennent, finalement?
Alors, Moi, ce qui m'a motivée au départ, c'est que je lisais beaucoup donc de ces livres qui sont sortis, de ces essais un peu philosophiques qui appelaient, voilà, autour de entre 2015-2018, qui appelaient à changer notre relation à la nature, notre rapport au monde. Mais c'était très intellectuel, encore une fois, c'était très théorique et ça donnait pas vraiment de pistes. Et alors, première chose, je pense que ce que j'aimerais démontrer, en tout cas avec, enfin apporter avec cette thèse, c'est que il y a des voies pour se connecter à la nature pour ceux qui le souhaitent, qui ne sont pas forcément très compliquées. Donc, c'est déjà de proposer diverses voies pour effectivement se relier à la nature, avec pourquoi pas d'ailleurs un annuaire des personnes, des réseaux, etc. Ça, c'est en cours. De réflexion. Ensuite, c'est aussi, voilà, dans ce discours sur l'écologie aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler de l'éco-spiritualité, ou alors c'est souvent décrié, un peu moqué, comme des gens qui câlinent des arbres et puis c'est tout. Non, il y a quand même une réflexion qui peut être un petit peu plus profonde que celle-ci. Ça peut très bien être en complément justement d'une approche peut-être plus militante ou même pas en complément. D'ailleurs, ça peut être une approche en soi, un rapport au monde en soi. Et puis, c'est de proposer des options, des possibilités pour créer ce lien. Et puis, dernière chose, justement, dans ce débat encore entre science, religion, il y a des personnes, en fait, je trouve que ça fait partie de l'expérience anthropologique, donc de l'expérience humaine, que d'avoir peut-être parfois des facultés de connexion, de communication qui ne sont pas forcément de l'ordre du rationnel uniquement et qu'on a un rapport intrinsèquement en tant qu'humain au monde non visible qui est aussi présent et sans aller vers des choses trop perchées entre guillemets, je trouve que parfois c'est bien d'en rendre compte aussi. Ouais.
Et pour toi, ça serait quoi les limites de l'éco-spiritualité ? Qu'est-ce que tu vois comme écueil finalement ?
Alors, ce que je disais plus tôt, c'est que jusqu'où va la dimension collective, sociale, jusqu'à quel point ça peut faire... Ils souhaitent changer les choses. Effectivement, ce credo de la spiritualité, se changer soi pour changer les autres et le monde de manière générale, ça revient de manière systématique. À quel point ça l'est ? Je ne sais pas. À quel point on dépasse nos petites activités humaines individuelles, je ne sais pas. Je trouve que parfois, il pourrait aussi y avoir un peu plus de réflexion introspective sur le mouvement de manière générale, sur les livres même qu'il lit, sur les discours qui circulent, qui sont imprégnés, encore une fois, de croyances, de dogmes. D'un autre côté, on est dans un état... Un courant peut-être général assez émotionnel, assez émotif, qui manque parfois un peu de rationalité. C'est pour ça que des personnes qui ont quitté ces milieux sont aussi nécessaires pour pointer du doigt ce qui mérite de l'être. Donc voilà, peut-être que ça, ce serait deux, trois éléments de départ pour une réflexion plus introspective, plus réflexive peut-être.
Donc, le podcast dont on parle, parce qu'en fait, on n'a pas cité, je crois pas, c'est Méta de choc. Ce serait quoi pour toi les lectures qui seraient intéressantes ? Moi, j'ai lu Juliette Finesse, qui était développement personnel. J'ai pas trouvé ça très intéressant, même s'il y a beaucoup de gens qui la trouvent passionnante. Eva Illouz, je l'ai trouvée beaucoup plus intéressante sur ce sujet.
Mais très critique, Eva Illouz. Très intéressante.
Ah oui, hyper critique, ouais, bien sûr. Hyper critique. Mais justement, moi, étant éco-spirituel, je pense que je peux me définir comme ça, de toute évidence. Je trouve que c'est important, justement, que moi-même, je fasse ma propre réflexion en lisant des bouquins comme celui d'Eva Illouz ou de Juliette Finesse ou d'autres. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent de lire justement pour faire cette introspection sur leur propre croyance ?
Alors, donc, comme je disais, Le puritanisme vert de Philippe Pelletier, excellent livre. Je les ai cités, c'est un peu mes bibles pour l'instant, mais Raphaël Yogier, Ceci de soi, conscience du monde, sur la spiritualité de manière générale, c'est très bien. Je regarde ma bibliothèque en même temps. Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? je pense que ça, ce sont deux ouvrages qui sont assez accessibles et qui sont intéressants. Mais j'aimerais bien voir davantage de livres effectivement plus critiques sur l'écologie. Mais sans critique, mais sans condamner, tu vois, toujours ce que d'autres philosophes, par exemple, n'ont pas fait et ont eu tendance à rejeter un petit peu en bloc, à montrer tout ce qui n'allait pas. Non, il y a des choses aussi qui sont justifiées. Donc, de faire un peu l'état des lieux, des courants, l'histoire un peu des idées, je trouve ça très intéressant. Ouais.
Parfait. Merci beaucoup, Julia.
Merci
donc
à toi.
Ce podcast, le podcast s'appelle Vlan. Donc, j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Écoute, je vais renvoyer à Marc qui nous a mis en lien et je pense que son travail justement sur la néo-spiritualité, sur les dogmes est assez important. Il a aussi une posture que je trouve très juste, très intéressante, qui lui a parfois été un peu reprochée par des journalistes justement de pas assez critiquer ses mouvements. Donc voilà, pour poursuivre cette conversation, je pointerai vers Marc.
D'accord, c'est cool. Non, mais en plus, je l'ai reçu et j'ai pas diffusé le podcast, on s'est mis d'accord ensemble pour pas le diffuser parce on est rentré dans une conversation tout de suite sur une personne qui s'était suicidée, qui était dépressive, etc. Et du coup, toute la conversation est là-dessus. Et je me suis dit, en fait, c'était pas l'idée qu'il voulait défendre, et moi non plus. Et en fait, c'est moi qui ai posé une mauvaise question au départ, en fait, tout simplement. Et on devait le réenregistrer, on l'a pas fait. Mais je vais le recontacter, effectivement, parce que c'était hyper intéressant. Mais du coup, on est parti d'un mauvais côté. Et puis après, on n'a pas eu le temps de le refaire. Mais effectivement, je vais essayer de diffuser sa pensée. Super. Merci beaucoup, Julia. C'était vraiment super intéressant.
Merci à toi, Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !